l'écho d'économie.
À l'appel de la société civile de l'Ituri a observé trois journées villes mortes et en dépit des menaces du maire de Bounia, plusieurs commerçants n'ont pas ouvert leurs activités ce mercredi. Seulement, quelques maisons de commerce ont ouvert par crainte de subir les sanctions commises par le maire de la ville. Dans l'actualité économique, des sociétés américaines et canadiennes gagnent la compétition des appels d'offres des blocs pétroliers et gaziers de la RDC. Zoom dans ce magazine sur Symbiom Power et son projet de développement en RDC. Nous dirons également un mot sur le forum Davos 2023 qui se tient en Suisse jusqu'au 20 janvier 2023. Le président Félix Tshisekedi y a listé au deuxième jour tous les efforts que la RDC fournit pour améliorer le climat des affaires et attirer les investisseurs. Voilà pour le titre. Bienvenue à toutes et à tous. Commençons par l'Ituri où les activités socio-économiques sont restées paralysées ce mercredi dans toute la ville de Bounia. C'est en réponse à l'appel de trois journées villes mortes décrétées par la coordination provinciale de la société civile Force Vive. Elle veut ainsi fustiger la persistance des exactions des groupes armés dans les territoires de Djougou, Mahagi et Irumu. La plupart des boutiques, magasins et supermarchés n'ont pas ouvert leurs portes. Les quelques-uns qui ont ouvert l'ont fait par crainte des sanctions promises par le maire de la ville à l'encontre de tous ceux qui obéiraient à cet appel de ville morte de la société civile. Un dispositif des militaires et policiers était visible dans plusieurs coins stratégiques de la ville pour assurer la sécurité de la population. Bounia encore, les commerçants du marché de l'abattoir au quartier Opas dans la commune de Bounia s'opposent à la délocalisation de ces lieux publics vers le marché communal de Kijogoli, c'est au quartier proche de Oho. Les marchands n'en veulent pas, y compris la population qui fréquente ce marché. Plutôt que de délocaliser le marché, ils demandent à l'autorité municipale de les moderniser. Et pour le bourgmestre de Bounia, ce marché du quartier Opas est un marché pirate et demande aux marchands de se conformer à cette mesure. C'est donc un bras de fer entre la population et leur bourgmestre. Pendant ce temps à Kalemi, c'est plutôt la Fédération des entreprises du Congo province du Tanganyika qui a suspendu sa contestation après avoir obtenu des autorités la suppression des taxes à problème et des garanties sécuritaires pour les commerçants. La taxe du commerce extérieur et celle d'estampillage sont suspendues. Motif de satisfaction pour Jules Moulia, président de la FEC Tanganyika. Au micro de Fulbert Balolagué.
Aujourd'hui, ces griefs-là ont trouvé solution. Alors, je suis très heureux. Il s'agit de la taxe du commerce extérieur perçue sur les produits qui viennent de l'intérieur même du pays. Je ne veux pas spécifier parce que ça peut venir de Lubumbashi, Uvira, Bukavu, Goma. Tout cela, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas d'usine, mais ce sont des produits déjà dédouanés qui sont au pays. Nous avons des avions cargo qui viennent de Kinshasa tous les jours, avec des produits, surtout les produits pharmaceutiques de Kinshasa. Est-ce que va-t-on imposer une taxe de commerce extérieur sur ces produits-là? Non, et qu'on ne commence pas aujourd'hui. Alors, nous voulons que cela, ce qu'on a fait, on accorde aux commerçants de Kinshasa, qu'on l'accorde à tous les autres citoyens congolais. Autrement, c'est deux poids, deux mesures. Deuxièmement, il y a cette histoire d'estampillage. La définition dans le journal officiel de la taxe sur l'estampillage est claire. C'est une taxe de l'industrie. Ce n'est pas moi le commerçant. Je vais acheter des paquets de cartons de jus à Goma ou à Bukavu. Je viens avec ça ici. En fait, c'est déjà estampillé. Le producteur, où il est, a estampillé. Ce sont des produits qui viennent avec le barcode et tout, c'est estampillé. Ce n'est pas à moi de commencer à inventer une sorte d'estampillage ici à Kalemi. Et là, c'est un long processus. On a toujours discuté de ça avec les autorités et finalement, ça a été accepté. Donc, toutes les deux taxes sont suspendues. Et puis, il y a la troisième taxe, c'est par rapport... il y a commerce extérieur, il y a estampillage. Et puis, on devra parler aussi de l'OCC qui perçoit des cautions. Ces cautions-là sont illégales. Le DG de l'OCC nous l'a dit lui-même. On était en réunion avec la direction de l'OCC ici. Il nous a dit que mais il a posé la question aux agents de l'OCC direct. Mais merci. Où logez-vous cet argent-là? Il était tout à fait ahuri d'apprendre que l'OCC Kalemi percevait une caution. Et où la met-elle? Cette caution d'abord, elle est donnée en cash. Alors que l'OCC est censé percevoir son argent à travers le système Sidonia. Et puis ce sont des fortes sommes d'argent. C'est 10 000 $, c'est 15 000 $.
Allons présent dans la province du Nord Kivu, où le fonctionnaire délégué du gouverneur adjoint à Bambo, dans le territoire de Rutshuru, plaide pour l'ouverture d'un couloir humanitaire, ceci pour permettre aux populations des groupements Tongo et Bambo de récolter leurs produits des champs dans cette région sous occupation des rebelles du M23. Le délégué dit redouter une crise alimentaire, d'autant plus que des produits pourrissent déjà dans les champs. Les paysans qui tentent d'aller chercher à manger dans leurs propres champs sont menacés, parfois tués par les rebelles. Il sollicite l'implication de l'EAC, la communauté est-africaine, et de la MONUSCO pour permettre à ces populations d'accéder à leurs champs. Écoutons Isaac Chibira au micro de Denise Lukeso.
La population des groupements Bambo et groupements Tongo qui avait cultivé dans la contrée de Kazaroho, Kasali, Kanyangiri, Kapopi, Mozambique, Kahumiro traverse un moment très difficile. Beaucoup déjà perdent la vie pour accéder aux champs parce qu'au niveau des ménages, en tout cas, ça n'était pas. Sur ce, nous demandons un couloir humanitaire pour éviter les assassinats de la population qui tente d'aller chercher à manger, afin de permettre à la population cultivatrice d'aller récolter car les produits agricoles pourrissent dans les champs et bientôt nous allons commencer la saison culturelle. Si cette population n'a pas à manger, il y aura toujours des assassinats et dans les jours à venir, ça sera une crise humanitaire dans cette contrée. Sur ce, nous demandons à la MONUSCO, à l'EAC, nous demandons aussi à notre gouvernement, aux organisations régionales qui sont ici à Goma, de pouvoir s'y impliquer, voir si le Conseil de sécurité, l'Union européenne et les États-Unis pour sauver cette population qui est déjà en danger.
Écho d'économie. Deux sociétés américaines et une canadienne remportent l'appel d'offres pour l'exploitation des blocs gaziers dans le lac Kivu, appel d'offres émis par le gouvernement congolais. L'annonce en a été faite par le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbou. Zoom dans ce magazine, je vous l'ai promis, sur l'une de ces sociétés. Il s'agit de Symbiome Power et son projet de développement en RDC. Des détails avec vous, Cynthia Bachizina Bizana.
Symbiome Power est une société dont le siège social est basé à New York. L'entreprise développe des projets pour fournir l'énergie nécessaire au Rwanda, en Tanzanie, au Nigeria, à Madagascar, mais aussi en Irak et en Afghanistan. Pour le bloc pétrolier de Makelele, dans le lac Kivu, la société a proposé un projet de transformation du gaz en électricité de 60 mégawatts, un projet évalué à au moins 300 millions de dollars américains, a précisé son directeur général à nos confrères du journal américain Bloomberg. L'électricité produite avec le concours d'un partenaire va alimenter le centre commercial de Goma, les provinces du Nord et du Sud Kivu, toujours selon les projections de l'entreprise. Quant aux deux autres sociétés, la canadienne AlphaGiri Energy et l'américaine Winds Exploration, dont le siège est à Houston aux États-Unis, nous n'avons pas pour l'instant réussi à avoir plus de détails sur les projets qu'ils comptent réaliser pour la transformation du gaz en électricité dans les blocs loin. Njofu à Kalehe et celui d'Idjui.
Je vous garde un instant, Cynthia, pour parler cette fois-ci des efforts que la RDC déploie pour améliorer son climat des affaires. Le président de la République l'a dit lors d'un panel sur l'économie fondée sur une énergie propre. Félix-Antoine Tshisekedi a listé toutes les initiatives et actions prises pour assurer ceux qui veulent investir en RDC. C'était mardi 17 janvier au deuxième jour du Forum mondial économique de Davos en Suisse.
Aux côtés de quelques dirigeants des plus grandes multinationales, notamment Siemens, le président de la RDC est revenu brièvement sur ce qui est fait pour capitaliser l'attrait que représente le pays pour les investisseurs.
Nous sommes en ce moment en train de beaucoup travailler sur la législation. J'ai pris à mon cabinet l'initiative de créer une cellule climat des affaires qui est en contact avec tous les investisseurs pour voir et accompagner leur cheminement à travers les partenariats que nous faisons.
Ce panel était axé sur la transition énergétique. La RDC est le plus gros fournisseur de cobalt au monde, minerai stratégique pour ce système de production axé sur des énergies dites propres. Mais que faudrait-il faire pour assurer des partenaires intéressés, transformer cet atout en potentielle richesse et améliorer les conditions de vie de population? Réponse du président Tshisekedi.
D'abord, je pense que nous devrions améliorer notre cadre institutionnel, notre bonne gouvernance et rassurer plus en plus le partenaire. Ensuite, nous avons une politique qui définit l'exploration et l'exploitation. Évidemment, ça permet aux partenaires de connaître toutes les étapes pour arriver justement à la production. À côté de cela, il y a toute l'exigence environnementale. Il faut se conformer aux règles pour que l'impact environnemental ne soit pas négatif lorsque la production va se faire. Et il y a une exigence aussi que nous mettons dans le partenariat, c'est à demander aux partenaires d'avoir une considération pour les retombées sociales de ces activités. J'entends par là, il a l'obligation de construire des écoles, des hôpitaux.
Notez que le président de la République s'est dit conscient que l'insécurité, surtout dans la partie est du pays, demeure actuellement le plus grand défi pour le développement économique de son pays.
Merci Cynthia et merci aussi à vous chers auditeurs. Écoute Économie, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de les réécouter au plaisir sur www.radiookapi.net.